Valdo Pellegrin vient de publier « Montpellier, de savants en découverte » aux éditions Alcide, livre que nous avons présenté sur cette antenne, sur FM+, au mois d'octobre. En 18 épisodes, du square Planchon à l'école supérieure d'agronomie Place Viala, Valdo Pellegrin traque médecins, chimistes, scientifiques qui font l'histoire urbaine de Montpellier.
Chers amis, bonjour. Nous nous étions quittés la dernière fois sur les lieux de ce qui s'appelle aujourd'hui la Panacée et qui a été de 1498 jusqu'à 1792, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution en fait, le siège du Collège royal de médecine. Et en 1792, la Convention dissout les universités, ce qui fait que l'enseignement de la médecine va continuer, mais de façon, disons, clandestine. Et puis, Chaptal va décider de placer, de recaser, si vous voulez, l'université de médecine, non plus dans ce lieu de la Panacée où nous sommes, mais dans le palais épiscopal devenu bien national, où se trouve encore de nos jours la partie historique de la faculté de médecine, qui fera d'ailleurs l'objet d'une future émission. Il se trouve qu'en 1803, on crée une faculté, plutôt une école spéciale de pharmacie. Ce n'est pas encore une faculté, ça s'appelle École spéciale de pharmacie, avec trois chaires. Et on ne sait pas trop où les mettre. Les premiers temps, bon, ils ont des promotions qui sont assez faibles, hein, une dizaine d'étudiants, hein, donc c'est pas un gros problème, on va leur prêter une salle dans la nouvelle faculté de médecine, mais on cherche un lieu et finalement, il semblerait que ce soit l'ancien Collège royal de médecine qui soit le seul endroit où on peut les mettre. Ils ne sont pas très contents, les professeurs de pharmacie, d'aller là parce qu'ils estiment que c'est un lieu assez délabré. Mais enfin, donc, ils s'installent dans ce qui est aujourd'hui, sur les lieux de ce qui s'appelle aujourd'hui la Panacée. Alors, ils vont faire quelques travaux. Ils vont démolir le laboratoire de chimie et l'ancien amphithéâtre d'anatomie qui sont vraiment en ruine. Ils préfèrent les raser complètement. Ils vont faire un certain nombre de travaux et qui seront finis vers 1807. Alors, quelles sont les chaires qui vont être mises en place? Eh bien, les chaires qui vont être mises en place pour cette école de pharmacie sont les suivantes. On va mettre dans une première chaire qui va s'appeler la chaire de pharmacie, François-Joseph Rey. Ensuite, il y aura une chaire qui s'appelle la chaire de botanique et histoire naturelle, qui sera occupée par César Pouzin. Et pour terminer, une chaire de chimie générale qui sera occupée par Pierre Figuier. Alors je rappelle que les Figuier, c'est une famille protestante originaire de Sommières. Il y a plusieurs Figuier qui sont célèbres, notamment Louis Figuier, qui sera un célèbre vulgarisateur du milieu du 19e siècle. Et celui-là, c'est un pharmacien qui a sa pharmacie 17 rue de la Loge, c'est-à-dire dans la maison dont nous avons déjà parlé, qui avait été la maison de Rondelet, à l'angle de la rue de la Loge et de la rue des Trésoriers de France. Voilà nos trois professeurs en place. Et il y a un quatrième homme, c'est le directeur de l'école de pharmacie, qui s'appelle Virenque, qui est professeur à la faculté de médecine et qui est à la fois également pharmacien et médecin d'avant la Révolution. Alors il avait bien joué les choses, vous savez que les médecins n'aimaient pas du tout les pharmaciens, les apothicaires, et par conséquent, il refusait que quelqu'un qui était apothicaire fasse des études de médecine. Mais Virenque, lui, il a été malin, il a commencé par faire ses études de médecine, et une fois qu'il était médecin, il est allé chez les pharmaciens faire ses études de pharmacie. Alors à noter que les quatre premiers directeur de cette école spéciale de pharmacie créée en 1803 seront tous à la fois des médecins et des pharmaciens. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument remarquer. Alors, nous avons dit qu'il y avait trois chaires qui avaient été créées donc, après la Révolution, en 1803, dans cette école spéciale de pharmacie. On va créer une nouvelle chaire en 1837, qui sera une chaire de physique, et une autre chaire qui sera une chaire de chimie organique et toxicologie. Alors, on est obligé de créer des chaires au fur et à mesure que de nouvelles matières sont à étudier pour les futurs pharmaciens. Entre 1900 et 1950, on créera quatre nouvelles chaires, dont je ne vous donne pas les intitulés, parce que justement, ils vont changer au gré des nouvelles matières à enseigner. Et on va assister à une véritable explosion en créant six chaires après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1960, ce qui fait qu'à ce moment-là, la faculté de pharmacie avait 15 chaires au total. En cette fin de 19e siècle, il y a quelque chose qui est particulièrement remarquable. Eh bien, c'est que les étudiants vont voir arriver dans le rang des étudianteux. La première jeune fille qui va venir étudier à la faculté de pharmacie, c'est Mademoiselle Doumergue, qui va être inscrite en 1869. Et c'est assez amusant de penser que cette jeune fille a été qualifiée par la presse locale lorsqu'elle s'est inscrite de curiosité médicale. Donc Mademoiselle Doumergue s'inscrivant à la faculté de pharmacie en 1869 est considérée comme une curiosité médicale. Et cette demoiselle, dit-on, fait l'objet de moqueries de la part des étudiants. Alors le ministre de l'instruction publique s'en émeut et écrit au directeur de l'école pour lui demander ce qu'il en est. Et Jules-Émile Planchon, qui est directeur de l'école de pharmacie, le rassure par une lettre du 17 mars 1869 en lui disant « La jeune fille se montre très assidue, très convenable de tenue. Elle ne vient jamais au cours sans avoir à côté d'elle son père, sa mère ou sa tante. » Sa présence n'est l'occasion d'aucune manifestation déplacée. Autrement dit, Mademoiselle Doumergue ne pose pas de problème, bien que ce soit un cas, disons, assez exceptionnel, et elle va être la première femme à obtenir un diplôme de pharmacien de deuxième classe en 1874. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, on va faire un petit retour en arrière. Pendant la Révolution, on a un peu oublié les pharmaciens. Ce qui fait que pendant une période, la période qui va de 1792 à 1803, pendant 11 ans, ça a été un véritable désordre. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait ouvrir une pharmacie. Vous aviez des pharmaciens qui arrivaient de la campagne, qui s'installaient en ville sans demander rien à personne. Enfin, ça a été un petit peu la pagaille. Et pendant cette période, le ministre de l'Intérieur avait autorisé l'université de médecine à délivrer un diplôme provisoire à des gens qui auraient suivi certains cours pendant 3 ans à la faculté de pharmacie, à la faculté de médecine, puisqu'il n'y avait pas de faculté de pharmacie encore à ce moment-là. Et donc, il était dit que ce diplôme était un diplôme provisoire. Et sur ce diplôme, donc, il était écrit que l'école de santé, par la concession du présent diplôme provisoire, n'entend rien préjuger sur le mode qui sera déterminé par le corps législatif pour être admis au droit d'exercer la pharmacie, auquel le citoyen X, il s'agissait du récipiendaire, sera tenu de se conformer. Et en fait, tous ces diplômes provisoires, lorsque l'on a mis en place la loi du 11 avril 1803, qui créait vraiment le corps des pharmaciens, eh bien tous ces diplômes provisoires seront validés sans aucun problème. Alors, sous l'Ancien Régime, il y avait des pharmaciens de première classe et des pharmaciens de deuxième classe. Et il faut donc que je vous explique un petit peu comment ça se passait, parce que malheureusement, dans la loi qui créait ce corps des pharmaciens en 1803, eh bien, on a gardé encore ce système de l'Ancien Régime d'avoir des pharmaciens de deuxième classe et des pharmaciens de première classe. Alors, les pharmaciens de deuxième classe devaient d'abord être âgés pour avoir le diplôme d'au moins 25 ans, sauf dispense, et ils devaient avoir fait un stage de 8 ans dans une officine. Et au bout de 8 ans, ils pouvaient se présenter devant un jury départemental qui estimait qu'ils avaient suffisamment de connaissances pour ouvrir une officine, mais l'autorisation n'était valable que pour le département du jury départemental devant lequel on avait obtenu ce diplôme. Il y avait aussi les pharmaciens de première classe. Alors ceux-là ne faisaient pas de stage, mais ils faisaient 3 ans d'études à l'école spéciale de pharmacie. Et au bout de ces 3 ans d'études, s'ils étaient reçus à leur examen, ils avaient un diplôme de pharmacien de première classe qui, lui, était valable dans toute la France et pouvait s'installer partout. Et finalement, on arrivait à une certaine opposition entre les pharmaciens des petits villages et les pharmaciens des grandes villes. Voilà, c'est ce qui s'est passé et ça a duré pratiquement tout le 19e siècle. C'était quand même quelque chose d'assez dommage. Alors évidemment, les pharmaciens de deuxième classe pouvaient, s'ils le souhaitaient, aller passer un examen devant l'école spéciale de pharmacie. Mais cet examen était beaucoup plus difficile que l'examen qui passait devant les jurys départementaux. Alors voyons un petit peu quels sont les professeurs que l'on voyait, remarquables que l'on a eus. La pharmacie était une profession un peu dynastique. Notamment, il y a eu au XVIe siècle une grande dynastie, c'est celle des Catelans. Les Catelans, eh bien, on est obligé de les presque les numéroter, hein, parce que les Catelans avaient une véritable dynastie. Vous avez des Catelans. Le premier Catelan, c'est Laurent I Catelan, qui a été le logeur du Balois Félix Plater. Vous savez que les frères Plater ont eu l'idée géniale de nous laisser un journal qu'ils ont écrit. Alors on dit les frères Plater, en fait ils étaient demi-frères, ils avaient 48 ans d'écart, puisque l'aîné Félix Plater est le fils de Thomas Plater, père d'un premier mariage, lequel Félix Plater n'ayant pas eu d'enfant, son père s'est remarié à 74 ans et a eu 6 enfants avec sa nouvelle femme, dont Thomas Plater, fils, qui viendra et qui sera logé par Laurent II Catelan, hein, son nouveau logeur. Donc des Catelans, il y en a beaucoup, et les frères Plater vont loger chez eux, pratiquement à 48 ans d'écart. Ensuite, il y a un autre apothicaire très connu qui est Jacques Farge. Jacques Farge a été plusieurs fois consul de mer, il est également consul majeur en 1542. Il appartient lui aussi à une véritable dynastie d'apothicaires qui tiennent officine sur la place des Cévenols. Alors la place des Cévenols, on peut la situer à peu près à l'angle de la rue, le haut de la rue Saint-Guillain et la place de la préfecture. Et on l'appelle la place des Cévenols parce que souvent, des Cévenols descendus de leur montagne étaient là à attendre un emploi journalier pour pouvoir travailler à Montpellier au quotidien. Donc Jacques Farge avait est très célèbre, et quand le roi Charles IX vient à Montpellier en 1564, il est allé lui rendre visite dans sa boutique et il a même accepté une collation offerte par Jacques Farge. Jacques Farge était un protestant notoire et il aura malheureusement une fin tragique car... en 1569, en pleine guerre de religion, on s'est aperçu que son fils avait stocké dans la maison un peu de poudre et des armes, ce qui a entraîné une révolte, et on a mis le feu à sa maison et on l'a pendu à sa fenêtre en 1569. Alors il y a d'autres pharmaciens célèbres. On a parlé de Ballard qui avait découvert le brome, on a parlé de Jules-Émile Planchon à propos du phylloxéra, on a parlé aussi de Louis Figuier à propos de l'invention du parachute et de la légende du premier saut en parachute. Mais il y a d'autres pharmaciens célèbres dans notre ville, par exemple Émile Diacon qui a été directeur de l'école de pharmacie de 1881 à 1893. Émile Diacon est d'ailleurs enterré au cimetière protestant puisqu'il était protestant. Nous avons aussi quelqu'un d'autre qui était un autre pharmacien célèbre sur le plan politique, c'était le docteur Paul Peset. Peset était pharmacien de première classe et médecin en même temps. Et il a mené de front l'exercice de sa pharmacie, qui se trouvait place de l'Observatoire, avec une carrière politique, puisque Paul Peset a été maire de Montpellier de 1901 à 1904, puis de 1908 à 1919, et qu'il a également été député en 1914. Et puis il y a aussi deux autres pharmaciens dont je voudrais parler mais qui n'ont pas exercé dans la pharmacie. C'est le professeur Arand, dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler à propos du jardin des plantes. Et c'est le professeur Max Mousseron aussi qui est à l'origine, qui a été directeur de l'école de chimie. On en parlera certainement d'ailleurs lors de notre prochaine émission. Alors parlons un peu maintenant, si vous voulez bien, des locaux de cette école de pharmacie. Eh bien, il se trouve que les locaux étaient vraiment trop petits, ce qui fait qu'après 1807, quand ils ont fait le minimum pour pouvoir travailler correctement sur ce site que nous appelons aujourd'hui la panacée, les pharmaciens n'ont eu de cesse de s'agrandir. Et en quatre étapes, sur 150 ans, ils ont fini par acquérir l'ensemble des maisons qui constituaient le quadrilatère qui est compris entre la rue École de Pharmacie, la rue du Calvaire qui descend vers la rue de la Verrerie, et le quatrième côté du carré, c'est la rue du Berger. Donc ils ont acheté petit à petit, par expropriation et achats successifs, les différentes maisons jusqu'à se rendre maître de l'ensemble de ce lieu. Et à la fin, eh bien, les pharmaciens ont acheté les quatre dernières maisons juste après la guerre, disons au début des années 1950. Ces quatre dernières maisons ont été détruites et l'architecte de l'université, Jean de Richemont, a construit à cet emplacement un amphithéâtre qui manquait cruellement à la faculté de pharmacie et qui se trouve rue du Berger, qui d'ailleurs a été conservé dans les nouveaux aménagements de la panacée. Et puis, comme vous le savez sans doute, en 1967, eh bien, les pharmaciens ont quitté ces lieux parce que leur nombre était devenu très très grand, et ils sont allés s'installer sur un terrain de 6 hectares entre l'avenue Charles Flahaut et à l'angle de l'avenue Charles Flahaut et de la voie Domitienne. Et là, l'ensemble des travaux ont été conduits par le doyen Jean Giroux de 1907 à 1977, et l'architecte Jean de Richemont, et les travaux se sont terminés officiellement dans la nouvelle faculté de pharmacie qui a été inaugurée le 4 septembre 1967. Alors je voudrais signaler que dans cette faculté de pharmacie, il y a deux je ne sais pas comment appeler ça, enfin, deux événements, deux particularités importantes. D'abord, en 1972, Albert Ciurana a créé le musée de la pharmacie. Et ce musée est administré par une association, les Amis du musée de la pharmacie, qui est une association loi 1901, qui publie chaque année un bulletin, et on peut visiter ce musée Montpellierain de la pharmacie. Il est ouvert, alors soit sur rendez-vous, soit on va le visiter à ses heures d'ouverture, c'est-à-dire le mardi et le vendredi de 10h à midi. Et, il a des collections intéressantes. Il vaut vraiment la visite. Et puis il y a un deuxième musée, c'est le Droguier. Alors figurez-vous que en 1588, sur la proposition de l'apothicaire Bernardin Durand, eh bien qui tient boutique d'ailleurs rue de l'Aiguillerie, il est décidé de constituer un droguier. Alors un droguier, il s'agit en fait d'une collection d'échantillons de drogue qui sont rangés dans un ordre méthodique. Et par drogue, il faut entendre, bien entendu, les matières premières d'origine animale, végétale ou minérale qui entrent dans la composition des préparations médicamenteuses confectionnées dans les officines par les apothicaires. Ce qui fait que Durand a été le premier conservateur de cette collection qu'il héberge chez lui. Trois fois par an, il se rend en robe noire dans l'amphithéâtre d'anatomie du Collège des médecins pour faire des démonstrations de drogue aux écoliers en médecine. Alors c'est un événement qui est important parce que ça marque une collaboration qui n'était pas évidente à l'époque entre les médecins et les apothicaires, et surtout ça ouvre pour la première fois la porte de l'université aux maîtres apothicaires. Voilà, eh bien, je vous ai dit un certain nombre de renseignements et d'histoires concernant la faculté de pharmacie qui donc s'est trouvée là pendant 164 ans. Hein. Imaginez quand même que ça a été quelque chose d'assez long, précédé par plusieurs siècles également, 294 ans par l'enseignement de la médecine. Donc vous voyez que ce haut lieu de l'enseignement scientifique, médical et pharmaceutique qu'est aujourd'hui le lieu de la Panacée, a été pendant 458 ans donc un lieu d'enseignement médical et pharmaceutique. Et c'est peut-être pour cela qu'on a appelé ce lieu maintenant la Panacée, puisque comme vous le savez, la Panacée c'était le remède universel qui était capable de soigner toutes les maladies. C'est donc, ce nom est donc un clin d'œil aux années, aux 458 ans de ces enseignements médicaux et pharmaceutiques. Voilà, eh bien je vous dis au revoir et la semaine prochaine nous parlerons de l'Institut de chimie qui s'est installé en 1890 dans les mêmes lieux de la Panacée, mais à l'angle cette fois-ci de la rue de la Verrerie et de la rue du Berger. À bientôt, au revoir.